Vous écoutez RTL.
Écoute tout de suite la légende du Dakar sur RTL. Bonjour Philippe Sansfourche.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue dans notre studio.
On est très heureux de vous avoir avec nous. On va découvrir les secrets du Rallye Paris Dakar qui fête donc ses 40 ans cette année. Vous en avez suivi 6 ou 5 et demi. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Pour les journalistes aussi, c'est éprouvant hein, Dakar.
Alors, ce serait malvenu de dire que c'est aussi éprouvant que pour les concurrents, mais on a quand même une bonne idée de ce qu'ils peuvent vivre parce qu'on dort sous la tente toutes les nuits dans le désert. Il faut savoir qu'à cette époque de l'année, au Maroc, à l'époque, par exemple, il y a des températures qui peuvent être négatives, donc il faut des gros duvets. On part avec des trucs un peu insolites, des masques de ski parce qu'il faut se protéger des tempêtes de sable. Et puis on a aussi la douche, c'est pas tous les jours, donc il y a les petites lingettes pour bébé. J'étais pas papa à l'époque, depuis, à chaque fois que je sens les lingettes pour bébé, je me replonge dans l'univers du Dakar, c'est assez particulier.
Le Paris-Dakar a été créé en 1978 par un certain Thierry Sabine qui était cet aventurier. Réponse dans un court instant sur RTL.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. On est bien entre curieux sur RTL.
Une grande aventure a commencé ce matin pour 176 pilotes d'auto et de moto.
Sidonie Bonnec.
Paris-Dakar, 8500 km d'un rallye qui leur fera traverser l'Algérie, le Mali, le Niger et le Sénégal.
Thomas Hugues.
176 concurrents, dont la moitié en moto.
Indiscrétion, révélation.
La difficulté de cette épreuve rend tout pronostic particulièrement hasardeux.
La curiosité est un vilain défaut.
Un JT, ou en tout cas une chronique de Jean-Pierre Pernaut à l'époque, 1978, c'est la création du Paris-Dakar. Et avec Philippe Sansfourche, 4 décennies plus tard, on pénètre grâce à vous dans les coulisses de cette course qui est quand même devenue mythique. Je rappelle, faut-il le faire, que vous êtes journaliste au service des sports de RTL et que vous avez suivi 6 Dakar pour notre radio. Alors on va poser les bases, c'est quoi? C'est un rallye pas comme les autres?
C'est une compétition sportive, effectivement. C'est le premier vrai grand rallye raid qui a existé, qui a été médiatisé. Mais ce serait réducteur de le limiter à ça, parce qu'il y a une dimension... tous les concurrents vous disent que c'est avant tout une aventure humaine. C'est-à-dire qu'on ressort du Dakar pas comme quand on y est rentré, qu'on soit professionnel, qu'on soit amateur, parce que c'est ça aussi qui est exceptionnel. C'est un peu comme la magie de la Coupe de France en football, c'est que vous êtes un petit licencié de région comme ça, et vous allez avoir l'occasion, une fois dans votre vie, de jouer contre un vrai joueur professionnel. Et bien le Dakar, c'est pareil.
Donc l'important, c'est d'y participer, c'est ça, pas de gagner?
Oui, alors il y a des écuries qui s'engagent avec des moyens considérables pour remporter la victoire finale, parce qu'il y a des enjeux derrière qui sont économiques, commerciaux, d'exposition médiatique, mais globalement on vit la même aventure pendant 15 jours et il va y avoir des galères qui vont être côtoyées de la même façon par les amateurs et par les professionnels.
Il y a beaucoup de femmes parmi les concurrentes, par exemple dans l'édition 2018.
Faut être honnête, il y en a assez peu. En général, il y en a entre 10, 15 sur 400, 500, 600 participants. Donc, c'est extrêmement peu. C'est un milieu, effectivement, assez masculin, assez fermé. Mais moi, j'ai eu le souvenir, par exemple, d'avoir vécu des moments très intéressants avec Michel Mouton, l'ancienne championne de rallye, qui faisait le Dakar avec sa fille. Ça rejoint un peu ce que je vous disais au début, c'est que c'est aussi l'occasion de partager des moments intimes. Et donc, dans une même voiture, pendant 15 jours, Michel Mouton et sa fille avaient fait le Dakar ensemble.
Philippe Sansfourche, ça fait 10 ans que le Dakar se court en Amérique du Sud. Que s'est-il passé le 4 janvier 2008?
Eh bien, il y a eu des menaces terroristes qui ont plané sur le Dakar, qui étaient proférées par les groupes Al-Qaïda en Afrique. Mmh. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait des soucis. Hein. À chaque fois, il y avait des étapes qui étaient rognées, déplacées, il y avait des ponts aériens, on était obligé de revoir la cartographie au dernier moment. Et puis là, on est arrivé à un point d'orgue. 4 touristes français avaient été assassinés en Mauritanie quelques jours avant le départ du Dakar. Et les autorités françaises, les services secrets ont alerté ASO, l'organisateur du Dakar, au dernier moment, qu'il était impossible de partir de Lisbonne. Et malheureusement, ça a été la fin du Dakar en Afrique.
Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, vous aviez fait 6 Dakar, enfin 5 et demi, parce que ce jour-là, vous y êtes à Lisbonne, ce 4 janvier. Comment réagissent les coureurs? On se met dans la peau d'un amateur qui prépare ça depuis des mois. C'était un crève-cœur, c'était quoi?
Il y avait beaucoup d'incompréhension, pour certains de la colère, de l'énervement, parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de se dépasser, de dépasser les limites. Et c'est presque inhérent à la participation au Dakar, pas de, d'oublier le danger, parce que ce serait inconscient, mais de repousser toujours les limites du danger. Et ils avaient le sentiment que ce danger n'était peut-être pas suffisamment important pour empêcher tout le Dakar de pouvoir se déplacer. Donc il y avait énormément de frustration.
Alors c'est l'une des aventures du Dakar, l'une des dates clés de cette course mythique. On va en revivre d'autres, et notamment la création 1978. Thierry Sabine, un sportif, un aventurier, un chef d'entreprise, un sacré bonhomme en tout cas.
Les artistes, je vous salue, ici Max Meignan en direct de Marseille, première étape de ce rallye Paris-Dakar.
Sidonie Bonnec, Thomas Huguet.
Le premier Dakar a quitté Paris le lendemain de Noël. Il emmenait 167 novices du désert dans un raid de 9000 km à travers l'Afrique.
Si votre défaut, c'est la curiosité,
tout restait à inventer et le mythe commençait dans l'improvisation.
Alors vous êtes bien sur RTL.
C'était il y a 40 ans la création du Paris-Dakar par Thierry Sabine. On dévoile les secrets de cette épreuve mythique avec Philippe Sansfourche, journaliste au service des sports de RTL. Qui était Thierry Sabine ? Un aventurier, un sportif, un businessman ?
Au départ, c'est un pilote, c'est un passionné de sport mécanique, auto, moto, mais c'est aussi un organisateur dans l'âme déjà. Et c'est lui, par exemple, qui va créer l'enduro du Touquet, avec cette idée de mettre toutes les motos en randonnion sur la plage, et ça fait des images exceptionnelles. Il a le sens de l'événement, et en fait, il va faire un premier rallye en 77, à Abidjan-Nice, de mémoire, et il va se perdre dans le désert de Libye.
Ça va l'inspirer ou lui donner envie?
Il va passer trois jours et deux nuits. À l'époque, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de GPS. C'est-à-dire qu'il est vraiment perdu, quoi. Et il se voit mourir. Mais il revient avec des images plein la tête. C'est un peu le petit prince. Il a des hallucinations. Il ressort de là, changé. Et il n'a qu'une envie, c'est de retourner là-bas, d'emmener les gens qu'il aime là-bas. Et il crée l'événement. Il a l'idée de faire partir ça de Paris. Ça traverse la France. Tout le monde participe. C'est une caravane. Et finalement, ça va prendre extrêmement rapidement.
Donc le premier Paris-Dakar a lieu en 78. 167 concurrents y participent. Est-ce qu'ils seront nombreux à l'arrivée ?
Il y a beaucoup d'abandon sur le premier Dakar. Je crois qu'il y a plus de 60% d'abandon. C'est encore un peu brinque-ballant, l'organisation. Ouais. Il n'y a pas de classement pour les autos et les motos, par exemple. Tout le monde est classé de la même manière. On prend un chrono, c'est le premier qui arrive. D'ailleurs, c'est le motard Cyril Neveu qui remporte le premier Dakar avec un temps supérieur, enfin inférieur. Il va plus vite que les voitures.
Alors, l'organisation, évidemment, ça va très clairement s'améliorer d'année en année. C'est jugé sur la sécurité, la capacité de l'organisation à retrouver les pilotes moto ou auto. Puis c'est jugé sur le bivouac aussi, la bonne organisation d'un Dakar. Ça ressemble à quoi un bivouac du Dakar, Philippe Sansfourche ?
Ça, c'est ce qui a le plus changé depuis le départ du Dakar, parce que c'était au coin du feu, c'était des duvets dans le désert, et puis on mangeait ce qu'on pouvait avec les locaux, les Touaregs qui venaient apporter un peu de nourriture.
Ah, on prévoyait pas la nourriture, c'est-à-dire
Il y avait quelques, on passait quelques coups de fil avant, il y avait quelques personnes pour faire le lien sur le. Il y avait deux trois figures d'ailleurs qui avaient toujours des liasses de billets dans la poche parce qu'il fallait sauver des coups, fallait trouver des matelas pour essayer de dormir. Donc ils essayaient d'acheter des trucs comme ça au dernier moment. C'était vraiment une aventure de tous les jours. Aujourd'hui, un bivouac de Dakar, c'est un vrai barnum. C'est 10 000 m², c'est 3 000 personnes par jour qui mangent, qui dorment, ce sont des partenaires qui viennent pour faire des opérations commerciales sur une journée. C'est absolument
un hôpital de campagne qui.
Ah, on peut appeler ça un hôpital, un hôpital de campagne.
Il y a de quoi soigner vraiment, donner les premiers soins à des blessés.
On peut faire des opérations lourdes sur le Dakar. Il y a plus de 60 personnes de personnel médical. Il y a 7 hélicoptères. Il y a une vingtaine de véhicules, dont 10 médicalisés. Il y a des hôpitaux en France qui aimeraient avoir ces moyens-là.
Ouais, alors, c'est, dans les années 80-90, le Dakar, c'est devenu assez vite un must pour les personnalités. Il y avait énormément de people qui voulaient y participer. On va pas faire toute la liste, mais vous en avez quelques-uns en tête.
Oui, alors il y avait beaucoup de, il y avait des acteurs comme Claude Brasseur. Il y a eu aussi d'autres pilotes automobiles importants comme Henri Pescarolo ou Jackie X qui sont venus apporter leur pierre à l'édifice. Ça a été jusqu'à Johnny dans les années 2000.
La princesse de Monaco aussi, pour ces femmes. Evelyne Delia.
Non, ça a été effectivement des coups médiatiques importants. C'était dans l'air du temps. C'était aussi la place de l'automobile n'était pas la même dans ces années-là qu'elle l'est aujourd'hui. C'était bien vu de se montrer sur ce type d'épreuve, même si on n'était pas forcément fan. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que ce soit le cas.
Et justement, dans ce que vous dites, il y a aussi un peu de la mauvaise image du Dakar. Moi, j'ai souvent lu, un relent de colonialisme, c'est les Blancs qui débarquent en Afrique. Voilà, aujourd'hui, c'est en Amérique du Sud, mais c'est un terrain de jeu
pour les Blancs. On vient faire de l'Afrique le terrain de jeu.
Vous qui l'avez vécu sur le terrain, qu'est-ce que vous répondez?
Moi, je ne peux pas me faire l'avocat, je ne suis pas le représentant des organisateurs du Dakar. Moi, simplement, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, et les discussions que j'ai pu avoir avec les chefs de village en Afrique, de tous âges, il y avait essentiellement de la joie et de la fierté. Parce que pour une fois, on parlait de l'Afrique autrement que parce qu'il y avait eu un coup d'État ou une catastrophe naturelle. C'était justement une fierté de se dire que les Occidentaux, avec leur technologie, venaient organiser une grande compétition sportive sur le terrain africain. Et finalement, il y en a très peu, voire jamais. Donc pour eux, c'était avant tout une fierté.
La curiosité continue sur RTL. On vous raconte le Dakar et ses drames. 14 janvier 1986, l'hélicoptère de Thierry Sabine et Daniel Balavoine ne répond plus.
RTL. Si Denis Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous l'avons appris il y a une dizaine de minutes. Le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine ont trouvé la mort dans l'accident d'hélicoptère qui a fait au total 5 morts sur le rallye Paris-Dakar. Éric Gendry.
Vous l'avez dit, il y avait 5 personnes à bord de cet hélicoptère. Toutes sont mortes. Il y avait Thierry Sabine, l'organisateur du rallye Paris-Dakar. Il y avait également le chanteur Daniel Balavoine. Mais il y avait aussi une jeune journaliste, Nathalie Audan. Il y avait également Jean-Paul Le Furge, qui était technicien à RTL, et le pilote.
5 morts ce 14 janvier 1986, on découvre l'histoire parfois dramatique du Paris-Dakar, créé donc en 1978, c'était il y a 40 ans, on était avec Philippe Sansfourche. Il y avait donc 5 personnes à bord de cet hélicoptère. Pourquoi il y a Daniel Balavoine à bord? Est-ce qu'il c'est un concurrent? S'il est concurrent, il n'est pas dans l'hélico, on ne comprend pas bien.
Non, il l'avait été sur 2 éditions auparavant. Et c'est justement en tant que concurrent qu'il a compris qu'il y avait une dimension qui dépassait le sportif et qu'il pouvait apporter quelque chose avec sa notoriété. Et donc, il a lancé ses premières actions humanitaires pour faire parvenir des pompes à eau dans les villages reculés en Afrique et notamment au Mali, là où le drame s'est produit. Et en fait, il y avait des soucis, il y avait des camions qui étaient bloqués avec des pompes à eau et il savait qu'il pouvait rencontrer le gouverneur, notamment sur un match de foot qui était organisé par l'épreuve du Dakar à Gao. Et donc, il s'est rendu dans la journée avec Thierry Sabine sur ce match de foot et il a fallu repartir très tard, vers 17h. Et là, il y avait 250 km à faire avec l'hélicoptère dans des conditions très compliquées.
Qu'est-ce qui s'est passé justement? Pourquoi l'hélicoptère s'est-il écrasé?
Parce qu'il y avait des conditions de plus en plus compliquées. Mmh. À partir de 17-18h, la nuit commence à tomber. Et dans le désert, avec la tempête de sable, en fait, les conditions étaient devenues impraticables. Il y a plusieurs versions, on ne sait pas précisément pourquoi ils ont été jusqu'au boutiste. L'accident s'est produit à 8 km de l'arrivée. Normalement, ils auraient dû s'arrêter. Pour une raison qui reste inconnue, ils ont voulu continuer. L'accident s'est produit à 19h10, donc il faisait complètement nuit. Il y a des témoignages qui racontent que l'hélicoptère suivait à ras du sol un 4x4 avec ses feux arrière qui lui servaient de balise à quelques mètres du sol pour éviter les dunes. Et malheureusement, ils n'ont pas évité la dernière. Depuis, les conditions de sécurité ont énormément évolué. Il est impossible de faire décoller un hélicoptère à cette heure-là pour faire 250 km, parce qu'il y a les dunes, mais il y a aussi des câbles électriques qui sont dans le désert et qu'on ne voit pas quand la nuit tombe. Donc c'est extrêmement dangereux, d'autant que les hélicoptères sont déjà dans des conditions difficiles. Il faut savoir par exemple que les pales de l'hélicoptère sont graissées avant le départ de l'épreuve, ne sont plus regraissées après, parce qu'avec le sable, justement, ça pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut bloquer le moteur. Donc on est quand même dans des conditions un peu extrêmes pour les pilotes et pour les organisateurs pendant toute la compétition.
Cette année-là, en 86, la course a continué.
Oui, elle a continué, la mort dans l'âme, mais elle a continué. C'est le père de Thierry Sabine, Gilbert Sabine, qui a pris le relais. Ils sont allés jusqu'au bout, mais c'était évidemment avec le cœur serré.
Alors, un dernier mot, parce qu'on ne l'a pas dit, le Dakar aujourd'hui est en Amérique du Sud. On s'appelle encore le Dakar, c'est un peu surprenant. On en parle moins dans les médias français, mais il y a un enjeu économique encore important pour les marques.
C'est vrai que c'est moins dans l'air du temps, la course automobile. On parle moins de Formule 1, on parle moins de sport mécanique de manière générale. Mais l'éloignement, le décalage horaire a fait qu'il y avait un petit peu moins d'empathie pour l'épreuve. Les gens arrivaient moins à se projeter. Et du coup, il y a un désengagement médiatique. Ce qui ne veut pas dire que le Dakar n'est pas une réussite sur le plan international, parce qu'il y a de plus en plus de télé qui achètent les droits. Il y a des concurrents chaque année de pays qui ne participaient pas avant. Donc ça s'est internationalisé. Mais c'est vrai qu'en France, il y a un petit peu moins de médiatisation ces dernières années.
Merci beaucoup Philippe Sanfour.
Merci Philippe.
On suivra l'arrivée de ce 40e Dakar avec vous sur RTL.
C'est la fin de votre curiosité. Vous pouvez nous podcaster sur rtl.fr pour nous faire découvrir à vos amis et vos ennemis.
Et on vous donne rendez-vous demain à 14h sur notre antenne sur RTL. Florence Foresti et le Big Bang au programme, les secrets de la reine de l'humour et les mystères de la création de l'univers.
Vous écoutez RTL.